Je suis présélectionné pour arbitrer du rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et je suis également enseignant de PS au collège Guillaume Apollinaire de Plaisir au sein de la section sportive. Moi, je trouve que ça ne me donne pas nécessairement de notoriété particulière au sein de mon établissement, Jeux Olympiques ou pas, dans la mesure où, de toute façon, les élèves que j'encadre, ils le savent déjà et qu'ils me font confiance et je pense que mes collègues également. Et dans tous les cas, au sein de mon établissement, j'essaie d'avoir cette posture d'exemplarité qui est inhérente à mon métier.
Nom.
Rosier Jérémy.
Âge.
32 ans.
Club Yvelinois.
Plaisir Rugby Club.
Commune de résidence.
Plaisir.
Spécialité.
Arbitre international de rugby à 7.
Palmarès.
Sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Participation à deux Coupes du Monde de rugby à 7 en 2018 et 2022. Arbitre du rugby à 15 en top 14. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le rugby à 7 est une variante du rugby qui se joue à 7 joueurs au lieu de 15 pour le rugby classique.
Ah ouais, on reconnaît bien la pédagogie du prof là. Moi, c'est Laurie Berton, je travaille au service sport du département des Yvelines et je suis une ancienne athlète de haut niveau en cyclisme sur piste. J'ai été vice-championne du monde de l'Omnium et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Chaque mois, j'interviewe un athlète yvelinois qui prépare Paris 2024, l'occasion de découvrir un peu mieux le territoire des Yvelines et les projets qui y sont développés. Retour à l'école, là nous sommes donc dans une cour de récréation, celle du collège de Jean-Baptiste de Quintigny à Noisy-le-Roi. On y voit quelques arbres, notamment aussi un espace dédié au sport avec des paniers de basket, une table de tennis de table. Il y a même un souffleur de feuilles au loin, on va peut-être l'entendre. Toi Jérémy, tu es prof de PS à Plaisir dans les Yvelines ?
Oui, c'est ça, au collège Guillaume Apollinaire de Plaisir exactement.
Et tu es présélectionné pour arbitrer les Jeux Olympiques de Paris 2024 en rugby, mais tu as aussi une pratique sportive en club, c'est bien ça ?
Oui, les arbitres s'entraînent, même si des fois ça paraît pas hein, pour le grand public, mais si on s'entraîne. Et donc bien sûr, je suis toujours un peu joueur quand même, parce que je suis licencié au Plaisir Rugby Club, mais aujourd'hui avec ma préparation des JO, j'ai plus trop le temps de jouer, et puis bon, j'essaye de me préserver un peu quand même pour être en pleine forme à la fin de l'année. En plus de ma licence de joueur, je suis aussi entraîneur de la section sportive du collège où je travaille et surtout après, je suis aussi, on va dire, coach ou référent sur toute la partie plutôt arbitrage.
Donc je vois bien que tu es très pédagogue, même en dehors de ton travail au collège. Et justement, quel lien tu fais entre ton travail d'arbitre et ton travail de pédagogue ?
Je dirais que les deux sont très complémentaires quand on est arbitre et surtout au rugby dans un sport assez complexe. L'enjeu principal c'est de se faire comprendre. On doit trancher sur le terrain donc via des règles, mais comme les règles sont complexes, il faut être pédagogue et savoir les expliquer. Et voilà, le premier enjeu en tant qu'arbitre c'est justement de ne pas frustrer les équipes et que les équipes comprennent. Donc on a beaucoup de discussions et vous le savez au niveau international ou même au niveau national en top 14, on est toujours avec un micro hein, sur l'arbitre et on doit s'expliquer. Et il est important justement que ces échanges avec les joueurs soient le plus cordiaux possible pour que le téléspectateur qui est dans sa télévision aussi puisse comprendre les règles. Et je crois que c'est le lien que je ferai parce que c'est vrai que moi dans mon activité aussi d'enseignant, quand je donne les consignes aux élèves, il faut qu'elles soient le plus claires possible. C'est dans cet enjeu-là que je trouve que mes deux, on va dire, métiers sont complémentaires.
Et du coup, pourquoi cette transmission, elle est si importante pour toi ?
Alors moi, cette transmission-là, elle me paraît naturelle dans le sens où moi, on m'a beaucoup transmis quand j'étais plus jeune. J'ai attaqué le rugby à l'âge de 5 ans. Donc c'est vrai que j'en ai déjà parlé un peu précédemment, mais cette transmission et toutes ces règles, ces normes qu'on m'a appris dès le plus jeune âge, et notamment cette vraie valeur de respect qui existe dans le rugby, je trouve que ça, c'est fondamental. Toutes les choses qu'on m'a données, j'essaie moi, à mon tour, de la transmettre à mes élèves. Et si j'arrive à leur transmettre justement toutes ces valeurs et ces règles qui régissent le sport, mais on va dire la vie en société en général, je trouve qu'on aura plus des chances de former de meilleurs citoyens de demain. Et donc voilà, que j'allais pas dire l'arbitre est un citoyen modèle, mais en tout cas j'essaie d'être exemplaire on va dire dans ce que je leur donne et dans mon attitude aussi en face d'eux, pour que eux ils comprennent ce modèle d'exemplarité qu'il faut adopter au sein des cours et surtout à l'extérieur des cours dans leur vie pour leur futur d'adulte, j'allais dire. Et voilà, au travers de cette hygiène de vie et de ces règles que je leur apprends, j'espère que ça aura des implications sur demain.
Le confort des élèves, c'est très important, en fait, le bien-être. Si les élèves se sentent pas bien, comment imaginer qu'ils puissent travailler sereinement ?
Christophe Massé, principal du collège Jean-Baptiste de la Quintinie à Noisy-le-Roi.
Donc il faut mettre en place des actions avec des équipes pour les amener à finalement être bien dans leur établissement. Alors qu'est-ce qu'on met en place finalement pour ça ? Alors il y a beaucoup d'actions qui existaient avant que j'arrive, hein. Moi je n'ai pas fait grand-chose, hein. Mais j'ai envie de citer plusieurs choses. Par exemple, il y avait un piano dans un coin, dans une salle. Personne n'utilisait ce piano. Les élèves viennent me demander, on aimerait bien jouer dans la salle. Mais je dis, attendez, on peut faire même mieux que ça. Pourquoi est-ce que le piano, on ne le met pas en libre-service dans le hall, comme dans les gares, par exemple ? Ils ont été subjugués qu'on puisse faire ça. On l'a fait depuis presque un an. Les élèves jouent admirablement bien. Alors parfois, les enseignants disent que c'est un peu bruyant, qu'ils n'ont pas envie d'écouter de la musique. Moi, je leur dis de fermer la porte. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. Ils viennent, ils respectent le matériel, ils jouent des morceaux. Des élèves écoutent et ça leur donne envie. Voilà le bien-être, par exemple. Et puis, par exemple, l'an dernier, les élèves nous disent on aimerait bien faire un carnaval. Alors, on connaît tous le carnaval, c'est assez classique. On essaye de pousser un peu. Et finalement, on leur dit un carnaval des métiers, ça vous dirait ? Parfait, ils étaient super contents. Chaque niveau a un domaine de métier. On les fait réfléchir sur les métiers et ils s'habillent. C'était un moment exceptionnel. Et ça a duré 2 heures, mais on s'est dit que cette année, on allait faire encore une journée entière avec des défilés partout dans l'établissement parce que c'est des moments de bien-être et de partage. On a aussi beaucoup d'actions sur le midi, des clubs, etc. Je passe ça. Mais on a aussi beaucoup de choses sur l'écologie. Par exemple, un quintitroc. La Quintinie, c'est le nom du collège. Ils ont appelé ça le quintitroc. Et en fait, ils se chargent de trouver des vêtements qui sont donnés. Et on met en place un échange de vêtements. On évite comme ça le gâchis ou de racheter, etc. Et puis, il y a plein de travaux dans l'établissement avec le conseil départemental qui sont prévus, refaire l'abri vélo, refaire tout un tas de pièces dans l'établissement, mais surtout la cour, un vaste aménagement de la cour qui a été réfléchi en faisant participer les élèves, les parents, les enseignants, les personnels, pour donner leur avis sur ce qu'ils aimeraient. Donc voilà, et ce type de projet-là, avec l'appui du conseil départemental, ce sont des choses qui concourent finalement au bien-être des élèves, et je crois savoir qu'il y en a dans d'autres établissements dans le département.
Oui, tout à fait, il y a un projet de nouvelle cité scolaire à Sartrouville également.
Alors, c'est un énorme chantier dont la maîtrise d'œuvre en fait est pilotée par le département.
Amel Karchi-Saadi, responsable de la mission Collège d'Excellence.
Ce projet est cofinancé avec la ville de Sartrouville. L'ambition de ce projet, c'est de mettre en œuvre une politique éducative ambitieuse, ayant pour objectif la réussite de tous les élèves, mais également l'égalité des chances. La future cité scolaire donnera l'opportunité à environ 1200 élèves, allant de la maternelle jusqu'à la troisième, de bénéficier donc d'un projet pédagogique, j'allais dire, ambitieux, dans le sens où l'objectif est d'avoir des élèves qui, sortant de troisième, puissent être totalement bilingues, s'ils ont suivi la cohorte complète.
Il y aura plusieurs établissements scolaires au sein du même complexe ?
Oui, mais qui ne formeront qu'une unité, une cité scolaire, donc un lieu de vie. Il y aura une école maternelle avec 9 classes, une école primaire avec 11 et le collège qui pourra accueillir 600 élèves. Et au sein de cette cité, il y aura donc des espaces qui seront mutualisés, qui compléteront donc l'infrastructure scolaire. Donc il y aura un centre de langue, puisque c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le pilier, j'allais dire, presque du projet. Et puis un amphithéâtre, etc. Donc effectivement, voilà, le projet va prendre de l'ampleur aussi vis-à-vis de ces espaces qui vont être aussi partagés.
Et dans ce lieu unique, en quoi pensez-vous que justement le bien-être des élèves y sera favorisé ?
Le département tient à ce que ce soit un projet de haute qualité environnementale, donc comme la dizaine de collèges qui vont être construits par la suite, et donc moins énergivores. Et comme je le disais, les nouveaux équipements mutualisés qui seront mis en place, tout ça va faire en sorte que l'idée d'ouverture et de mutualisation ne sera pas juste un vain mot, c'est-à-dire que ce sera aussi ouvert aux partenaires qui pourront proposer des choses intéressantes et des projets intéressants en faveur des élèves, mais pas que, aussi pour les parents.
Vous m'avez convaincu et du coup, moi, je souhaiterais le visiter. Donc, la livraison, elle est prévue pour quand ?
Alors, la livraison de la cité scolaire, elle va se faire en 2 temps. L'école maternelle, le collège et le gymnase seront livrés en 2025 et l'école élémentaire, l'école primaire, sera livrée, elle, l'année suivante.
Alors en 2015, après avoir équipé l'ensemble de ses collèges du très haut débit,
Mathieu Cornuet, directeur du numérique pour l'éducation et les solidarités chez Seine-Yvelines Numérique.
Le département, par l'intermédiaire de son opérateur, donc Seine-Yvelines Numérique, déployé et maintenu un parc de 11 000 tablettes, 10 000 pour ses élèves et 1 000 pour ses enseignants au sein de 17 collèges appelés les collèges pilotes. Ensuite, après ce pilote, le déploiement des tablettes numériques s'est généralisé dans tout le département des Yvelines et en particulier depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Et d'ici 2026, ce seront potentiellement 130 000 élèves et enseignants qui pourraient être équipés, dotés du cartable numérique Easy. Et ces tablettes, elles suivent les élèves aussi bien en classe qu'à la maison et même pendant leurs vacances. Alors, l'objectif de ce cartable Easy, c'est de proposer des cours plus dynamiques, des contenus pédagogiques intégrés, des échanges aussi facilités avec les professeurs. Et à terme, c'est l'ambition, on l'appelle le cartable numérique, avoir les manuels scolaires directement présents dans la tablette. Alors, au-delà de l'équipement de l'ensemble des collégiens et de leurs professeurs par le département, les communes ont aussi la possibilité d'équiper leurs CM1 et CM2. Ce qui fait qu'à la fin du projet Easy, on aura donc des élèves équipés à titre individuel du CM1 à la 3e, ainsi que leurs enseignants.
Ouais, j'aime beaucoup ce projet, sachant que même nous à Apollinaire, on a été bénéficiaires de cela. Et moi, en tant qu'enseignant, je suis vraiment très, très sensible à cela. Et du coup, selon vous, ce serait quoi la prochaine étape dans l'arrivée du numérique au collège, justement après ce beau projet que vous avez déployé ?
Eh bien, ce serait dans un premier temps de concrétiser l'arrivée des manuels scolaires dans la tablette pour soulager le poids des cartables. Et dans un second temps, c'est travailler à l'évolution de notre espace numérique de travail qui est déjà déployé au sein des collèges. Il sert au suivi de la vie scolaire et aussi des usages pédagogiques. Et l'objectif, c'est de le rendre plus large encore et que cet espace numérique de travail devienne un véritable portail de services scolaires et périscolaires pour pouvoir suivre l'élève dans son quotidien, dans et hors de l'école.
Et comme ça, les élèves ne pourront plus imiter la signature de leurs parents du coup ?
Non.
On n'arrête plus le progrès.
Thank you.